Émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire en ouverture d'une journée spéciale de France Culture enregistrée samedi dernier lors du forum qui se tenait à la Sorbonne sur le thème de l'animal. Samedi dernier, s'est tenu à la Sorbonne pour la première fois cette saison un forum de France Culture consacré à un seul thème, celui des rapports de l'homme et de l'animal, décliné par les émissions de savoir de la chaîne, c'est-à-dire les émissions de philosophie, d'économie, de sciences et bien entendu d'histoire que vous écouterez donc pendant toute cette journée. Partons tout de suite pour le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à cette heure très précoce de ce samedi. Donc, je ne sais ce que Puvis de Chavannes avait en tête lorsqu'il conçut pour le grand amphithéâtre de la Sorbonne où nous nous trouvons la grande toile marouflée que ce nombreux public qui est devant moi, assemblé ce matin, peut admirer juste au-dessus de nos têtes. Je note juste que dans cette allégorie des savoirs classiques, qu'il a titré « Le bois sacré », les seules figures représentées sont humaines. Alors, une toute petite différence, on voit un lézard au milieu des coraux, à la droite de cette fresque, cette toile marouflée de Puvis de Chavannes. Mais, en tout cas, Puvis de Chavannes peint donc un bois, mais un bois sans animaux. Faut-il y voir une métaphore de ce qui est un de nos deux invités, Éric Baraté, nomme le trou noir de l'histoire, l'animal vivant, étudié par lui-même, pour lui-même, comme acteur des sociétés du passé, non plus comme un objet manipulé et constamment agi par l'homme, je n'en suis pas sûr. Mais c'est bien de cette absence qui nous apparaît aujourd'hui comme extrêmement bruyante, dont il sera question dans ce premier débat de la journée, titré donc « Depuis quand défend-on les animaux ?» avec Béatrice Bougnol de La Croix, qui est le journal qui, avec le magazine L'Histoire, est notre partenaire pour cette manifestation et cette table ronde. Nous allons tenter de comprendre comment le souci de l'animal est venu aux hommes en compagnie d'Éric Baraté, donc je l'ai cité, et de Michel Pastoureau qui, depuis des décennies maintenant, outre les couleurs, outre l'héraldique, observe en historien les animaux dans leur représentation symbolique et culturelle depuis au moins l'Antiquité, mais plutôt le Moyen-Âge puisque c'est sa spécialité, jusqu'à nos jours. Et puisqu'une émission d'histoire en France ne peut faire l'impasse sur la figure du grand Jules Michelet, qui enseigna longtemps à deux pas de cet amphithéâtre, c'est-à-dire au Collège de France, faut-il le suivre quand il écrit en 1846, au milieu du XIXe siècle, dans Le Peuple, que le christianisme tint la nature animale à une distance infinie de l'homme et la ravala, et que ce Dieu, père tendre de l'homme, était devenu, pour l'animal, le cruel tyran des animaux? Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette phrase de Jules Michelet dans Le Peuple, où il évoque justement cette question de la relation de l'homme à l'animal, mais de l'homme à la religion et à l'animal, en l'occurrence Michel Pastoureau?
Pour le christianisme médiéval, la phrase de Michelet n'est que partiellement fondée. Il y a un double courant dans le christianisme médiéval vis-à-vis de l'animal. Il y a un courant dominant qui invite à ne pas confondre l'homme et l'animal. L'être humain a été conçu à l'image de Dieu. L'animal, c'est une créature imparfaite, une créature impure. Donc, il ne faut pas confondre l'homme et l'animal. Et tous les comportements qui le font plus ou moins sont des péchés. Par exemple, se déguiser en animal, c'est interdit. Et comme les évêques et les conciles le répètent à l'infini, ça prouve que ça n'est pas respecté, bien sûr. Avoir une affection trop grande pour tel ou tel individu animal, ça peut être aussi considéré comme un péché. Donc ça, c'est le courant dominant. Mais il y a un deuxième courant dont on parle moins souvent chez les historiens, qui est l'idée d'une communauté des êtres vivants, un courant qui vient d'Aristote, bien sûr, mais qui est relayé au sein du christianisme par saint Paul, le Paul de l'Épître aux Romains. Au chapitre 8, quand Paul parle des fins dernières, il dit que même la créature sera libérée de la servitude, la créature c'est l'animal, sera libérée de la servitude et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu. ça pose beaucoup de problèmes aux théologiens du Haut Moyen-Âge, mais surtout des 12e et 13e siècles. Est-ce que les animaux sont enfants de Dieu, oui ou non? On en débat à l'Université de Paris au 13e siècle avec beaucoup d'intensité. Et l'argument massue des défenseurs des animaux, c'est que Jésus est né dans une étable. Donc c'est bien la preuve qu'il est venu sur Terre pour sauver aussi les animaux. Et par là même, on se pose des questions du type, est-ce qu'il faut faire travailler les animaux le dimanche? Est-ce qu'on a le droit de leur imposer des jours de jeûne? Où vont-ils après la mort? En enfer et au paradis, le même que pour les humains? Ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux ou spéciaux pour telle ou telle espèce animale. Donc on en parle énormément et les documents sont foisonnants pour l'historien autour de ces deux courants.
Béatrice Bougnol.
Oui, justement, Michel Pastoureau, ces deux courants se reposent sur quel texte ?
Donc par rapport à ce que je viens de dire, ce deuxième courant se fonde, je le disais, sur l'Épître aux Romains, spécialement le chapitre 8, si je me souviens bien, et puis les commentaires qui en sont faits, pas très nombreux au début au Moyen-Âge, plus nombreux avant et après l'an 1000. Hein, Paul est assez discret pendant longtemps, bien que fondateur du christianisme, on le commente assez tard. Et c'est le texte fondateur. Et puis quand on redécouvre progressivement la partie zoologique de l'œuvre Aristote en plusieurs strates, à partir de la fin du XIIe siècle, on réfléchit beaucoup sur le statut de l'animal, ses rapports avec l'être humain, sur la condition animale, sur la hiérarchie ou les hiérarchies au sein du monde animal. On distingue des animaux supérieurs et des animaux qui ne le sont pas. Ça conduit à des comportements qui nous font sourire aujourd'hui, mais qui sont des terrains documentaires exceptionnels pour l'historien. Les fameux procès faits aux animaux, les plus anciennement documentés, c'est vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où l'Église elle-même devient un immense tribunal. Et ça va durer jusqu'en plein XVIIe siècle. Alors nous ricanons parfois de ces croyances et de ces animaux conduits devant les tribunaux, mais en fait ça implique une proximité entre l'homme et l'animal beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Hein. L'idée que non pas tous les animaux, mais certains d'entre eux sont responsables de leurs actes, peuvent comprendre ce qu'est le bien et le mal, peuvent se corriger. Ce sont des idées extrêmement modernes, au fond, dans un autre contexte, bien sûr. Et alors, pour moi, qui suis historien des animaux, le plus fascinant, c'est que 9 fois sur 10, les animaux concernés, conduits au tribunal, sont des cochons, c'est-à-dire l'animal qui, pour les sociétés anciennes, est pensé comme le plus proche de l'être humain. Et pour les sociétés d'aujourd'hui, du moins du point de vue biologique et physiologique, c'est exactement la même chose. Béatrice, presque la même chose.
Oui, justement, il y a notamment un cochon qui, lui, ne va pas apparaître d'ailleurs au tribunal, régicide, qui va provoquer une chute mortelle du frère aîné de Louis VII, puisque c'est des animaux qui errent dans les rues et qui donc provoquent souvent des accidents. Est-ce que vous pouvez revenir, Michel Pastoureau, sur quelques figures d'animal comme celle du cochon ou celle de l'ours, auquel vous avez consacré un ouvrage, dont on peut retracer l'histoire, toujours un peu ambivalente, entre un côté positif, un côté négatif.
Oui, du point de vue symbolique, tout est ambivalent dans toute société. Animaux, végétaux, couleurs, formes, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Tantôt l'un domine, tantôt c'est l'autre. Au Moyen-Âge, il y a 3 animaux qui sont pensés comme proches ou cousins de l'être humain. Il y a l'ours en raison de son aspect extérieur. Il peut se mettre debout, saisir des objets, manier des outils, danser, sauter, nager, s'accoupler à la façon des êtres humains. On va le croire jusqu'à Buffon, presque. C'est le premier cousin. Le second, c'est le cochon, comme je viens de le dire, avec l'idée qu'à l'intérieur du corps, tout est pareil. Et comme l'Église interdit dans les facs de médecine de disséquer le corps humain, pour apprendre l'anatomie du corps humain, à Salerne et ailleurs, en Occident, on dissèque le cadavre de la truie ou du verrat avec l'idée qu'à l'intérieur, c'est tout pareil. Et en effet, c'est tout pareil, ce que la médecine contemporaine confirme pleinement. Donc c'est un deuxième cousin de l'être humain, le cochon. Et le troisième, qui est parfois cité, c'est le singe. Mais là, certains auteurs précisent que, en fait, le singe est tellement diabolique qu'il fait le semblant de ressembler à l'être humain, mais qu'en fait, il ne lui ressemble pas du tout. Et il va falloir attendre l'époque moderne pour qu'on revienne sur ce cousinage, au moins des apparences, entre le singe et l'être humain. Et alors, ça n'est pas du tout, comment dirais-je, bénéfique pour l'animal de trop ressembler à l'être humain. Ce sont des grands réprouvés que l'ours, le cochon et le singe. Et comme toujours en histoire, ce qui est négatif, ce qui est péjoratif, ce qui est réprouvé, laisse beaucoup plus de traces dans les documents que ce qui est laudatif ou positif. Donc, dans mon travail sur les animaux, du point de vue monographique, je me suis concentré sur l'ours et le cochon pendant longtemps parce que les documents sont extrêmement, extrêmement abondants.
Oui, ce qui est très intéressant quand on vous lit, Michel Pastoureau, depuis longtemps sur ces animaux, c'est que vous pratiquez, et on en parlera tout à l'heure avec Éric Baraté, une véritable historicisation de ces figures, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fixes, elles correspondent à des regards qui sont portés sur elles à des moments différents, que ce soit sous l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et que, eh bien, dans cette hiérarchie que vous évoquiez tout à l'heure, l'homme voit dans ces animaux soit des animaux très glorieux, soit au contraire des animaux vils, mais que cela change au cours du temps. Vous expliquez comment le Moyen-Âge voit le glissement entre la figure de l'ours comme étant la figure qui est en haut d'une sorte de hiérarchie justement de ces animaux vers la figure du lion qui va devenir cette figure majestueuse qu'on va connaître jusqu'à quasiment aujourd'hui dans toutes les familles royales, en particulier Michel Pastoureau.
Oui, c'est un gros morceau de mon travail sur l'ours. Comment il a quitté son trône de roi des animaux pour le céder au lion. L'ours, c'était l'animal le plus fort sur tous les terroirs européens depuis des temps très très anciens. Donc c'était le roi des animaux. D'ailleurs, je me suis intéressé à d'autres cultures que la culture occidentale. Quels sont les rois animaux à l'échelle de la planète? Il y en a très très peu. En Europe, donc l'ours puis le lion. En Afrique, le lion ou l'éléphant. En Asie, le lion ou l'éléphant. Et dans les deux Amériques, l'aigle. Donc ça ne fait que quatre rois des animaux. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'ai longtemps réfléchi et j'ai fini par comprendre que ces quatre animaux-là sont invincibles, invincibles par un autre animal. Les Romains, d'ailleurs, avaient essayé en fait en combattre dans l'arène ours contre lion, et ça donne ce qu'on appellerait aujourd'hui match nul, quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'ours était le roi des animaux et faisait l'objet non seulement de vénération, mais de croyances de toutes sortes. Le christianisme est parti en guerre très tôt, dès l'époque carolingienne, contre les cultes de l'ours, et il a fallu du temps pour éradiquer ces cultes de l'ours en pleine terre chrétienne, notamment dans le monde germanique et slave. Et l'Église a tout essayé pour faire descendre l'ours de son trône. L'ours était l'animal des traditions orales, plus que des traditions écrites. Il y avait des croyances épouvantables qui ont la vie longue. Hein. L'idée que l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et par les jeunes femmes, il les enlève, il les viole, ça donne naissance à des créatures qui sont fils d'ours. Est-ce qu'il faut les baptiser, pas les baptiser, comment les considérer, etc., etc. Le lion présentait l'avantage pour la culture européenne d'être l'animal des traditions écrites. Or, les traditions écrites, ça se manipule beaucoup plus facilement que les traditions orales, ça se contrôle. Donc l'Église a joué la carte de lion contre l'ours comme roi des animaux, et elle a fini par y arriver. Au XIIe siècle, l'affaire est entendue dans le roman de Renard, par exemple, à la fin du XIIe siècle, dans les plus anciennes branches. Le roi des animaux, c'est déjà le lion, ça n'est plus l'ours, qui est le vice-roi, quelquefois. Dans la jeune héraldique, qui apparaît au XIIe siècle, la vedette du bestiaire, le roi du bestiaire, c'est le lion. Et ainsi de suite, l'ours ne récupérera jamais son trône. Il va même devenir une sorte de bête de cirque dont plus personne n'a peur. Les fables en rajoutent une couche en se moquant de l'ours, qui prend sa revanche avec l'immense dossier de l'ours en pluche. Mais là, on est au XXe siècle.
Oui, c'est ça. Béatrice Bougnol.
Oui, alors justement, peut-être qu'on peut faire une transition avec le travail d'Éric Baraté. D'ailleurs, et ce qui est frappant quand on vous lit aussi, Michel Pastoureau, c'est que le caractère invincible, en fait, donné à certains animaux, à ces rois des animaux, n'empêche pas finalement la violence à leur encontre, parce que finalement la puissance de l'ours fait que boire son sang, consommer sa chair est un acte de bravoure, et comme vous l'avez rappelé, au Moyen-Âge, quand l'Église lui déclare la guerre, elle organise à la fois son élimination physique et sa soumission symbolique, en diffusant l'image d'un ours enchaîné et en ne le tolérant plus que comme un animal de foire. Alors Éric Baraté, justement, vous, quand vous relisez l'histoire de l'animal, vous la relisez comme une histoire de grande violence à son encontre, ponctuée par certaines étapes, comme celle de la création des races, entre le 18e et le 19e siècle, ou entre, à partir du 19e, cette utilisation des animaux comme prolétaires, avec des vides prolétaires que vous allez décrire. Depuis quand on peut dater la défense, finalement, des animaux? Est-ce que c'est la date que vous rappelez de la création de la SPA, par exemple, en 1845? Ou est-ce que là, c'est la diffusion pour le goût, du goût pour les animaux domestiques? Depuis quand, voilà, peut-on dater cette défense des animaux?
Alors, si on prend effectivement notre position contemporaine, ça date du début du 19e siècle, mais il y a des volontés de protection bien antérieures. On en trouve déjà dans l'Ancien Testament, où il y a des versets qui demandent de respecter, par exemple, les animaux de travail, le bœuf, l'âne. Il y a aussi un verset que l'on a complètement oublié, qui demande que l'on n'arrache pas le membre d'un animal vivant pour le manger devant lui. Ce qui peut nous paraître maintenant bizarre, mais ce qui veut dire que ça se faisait. Et l'Ancien Testament était aussi un grand moment aussi de volonté ou de tentative de polisser certaines mœurs qui n'ont pas réussi, puisque le regretté Jean-Louis Flandrin avait trouvé au 15e, 16e siècle une recette de cuisine.
Historien de la cuisine en particulier.
Historien de la cuisine. Il avait trouvé une recette, comment cuire une volaille à point pour que lorsqu'elle arrive devant les convives, en lui arrachant l'aile, elle crie encore. Donc on est tout à fait dans ce verset, et donc il y avait la volonté quand même de pacifier ça. Et puis il y a l'époque aussi de François d'Assise, par exemple. Mais tout ça est quand même très particulier. C'est souvent une défense pour l'homme, c'est-à-dire éviter que l'homme ne tombe dans la barbarie. Protéger les animaux pour cela. La protection des animaux pour eux-mêmes, effectivement, on voit apparaître ça au XVIIIe siècle. Avec le grand épisode en France, c'est la Révolution, où à la Révolution, on va faire un lien entre, finalement, on va introduire les animaux dans les opprimés. Donc les sujets opprimés par le roi absolu, les esclaves, les femmes et les animaux. Et il y a toute une littérature sur l'idée de libérer tous ces êtres-là. Et d'ailleurs, la ville de Paris, par exemple, interdit la promenade d'animaux enchaînés par les montreurs ambulants pour que ça ne soit pas une image d'oppression qui soit donnée aux citoyens. Et il y a aussi toute une série de réflexions, par exemple, sur le jardin des plantes. Il y a des projets proposés par Bernardin de Saint-Pierre et l'abbé Grégoire, où ils veulent faire au Jardin des Plantes un espèce de parc zoologique un peu comme de nos jours, c'est-à-dire où les animaux seraient en liberté, et ils donneraient l'image comme ça d'une liberté. Et bon, là aussi, ça ne se réalisera pas, puisqu'en fait, le Jardin des Plantes, première manière, est plutôt un ensemble de cages et de symboles de prison.
Oui, il faut dire, Michel Pastoureau, que quand on travaille sur cette question des rapports de l'homme à l'animal, et en particulier sur cette question de la façon dont l'homme peut, à un moment ou à un autre, défendre les animaux, c'est travailler sur l'histoire des sensibilités aussi. C'est-à-dire que ce qui est supportable, à un moment donné, arracher un membre à un animal vivant, ou servir une volaille qui couine encore sur la table du repas, ne l'est plus à un autre moment, Michel Pastoureau.
Oui, d'ailleurs, l'historiographie le confirme. On a commencé à s'intéresser chez les historiens au monde animal lorsque ce que nous appelions à l'époque l'histoire des mentalités, devenu aussi l'histoire des sensibilités, était à la mode. Les deux choses sont liées, avec en amont l'influence de l'ethnologie, de l'anthropologie. Mais moi, j'ai commencé ma thèse il y a maintenant 50 ans, et ça semblait ridicule pour un historien du Moyen-Âge de travailler sur le monde animal. Ça n'était pas sérieux. Et Il y avait l'idée, même on a oublié ça, qu'il y avait des sujets où le jeune historien se faisait trop plaisir. Et alors moi, avec mes couleurs et mes animaux, j'avais l'air de trop jubiler dans ma recherche. Et ça avait quelque chose d'indécent, peut-être d'immoral. Le jeune chercheur avait des devoirs envers la société mais, et la communauté scientifique, mais l'idée qu'il se fasse plaisir avec sa recherche, ce qui pour nous est évident aujourd'hui, c'était pas dans l'air du temps il y a 50 ans. On l'a oublié, ça.
Et donc, justement, cette question des sensibilités, des mentalités, cette histoire des mentalités permet de mettre au jour, par des travaux pionniers dans les années 80 en particulier, permet de mettre au jour cette question de, à un moment donné, une société accepte des choses vis-à-vis des animaux qu'elle n'accepte plus un peu plus tard. Éric Baraté, ce que vous décrivez de la Révolution française, c'est aussi une rupture par rapport à ces, puisqu'on est à Paris, à ces rives de la Seine où on tue les bœufs, où on les égorge, où on jette les tripes dans la Seine, tout cela au vu et au su de tout le monde. Et à un moment donné, la société dit « on ne veut plus voir ça ».
Oui, tout à fait. C'est à partir de la Révolution. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est à la fois un changement de sensibilité des hommes, mais il y a aussi un changement du côté humain. C'est-à-dire que il ne faut pas penser l'idée comme si l'on faisait que des projections sensibles sur une situation animale qui ne changerait jamais. En réalité, à partir de la fin 18e, 19e siècle, il y a à la fois plus de sensibilité du côté des hommes, essentiellement d'ailleurs dans les milieux aristocratiques et bourgeois, mais il y a aussi une situation animale qui change. Et il y a notamment beaucoup plus de chevaux qu'auparavant. Il y a une vulgarisation de la conduite hippomobile et on voit très bien qu'il y a une partie des conducteurs, par exemple dans les villes, qui ne savent pas trop utiliser ces chevaux.
Oui.
Qui n'ont pas forcément d'affect très particulier avec ces chevaux. Et puis, les abattoirs augmentent, la consommation de viande augmente très fortement. Et donc, toutes ces scènes augmentent. Et évidemment, il y a une conjonction entre plus de brutalité et une sensibilité qui change.
Béatrice Bougnol.
Vous rappelez donc depuis le 19e siècle, donc cette sensibilité à l'égard des animaux a évolué. Vous témoignez finalement tous les deux dans vos travaux, et Michel Pastoureau, vous rappeliez à l'instant comment avait été reçue votre thèse il y a 50 ans, à la fois de du caractère récent des travaux historiques sur les animaux. Vous rappelez également tous les deux que d'autres disciplines, comme l'ethnologie, la linguistique, ont été pionnières en la matière et que très longtemps, finalement, on a confié à l'histoire amateur, l'histoire des anecdotes, cette histoire des animaux. Comment vous expliquez, finalement, que les historiens aient été, quelque part, les derniers à faire cette histoire des sensibilités animales ?
Moi, je dirais pas les historiens, les chercheurs professionnels, entre guillemets.
Hein, les professionnels.
Les universitaires, les gens du CNRS.
Parce que les historiens des vétérinaires, par exemple, s'y intéressent depuis longtemps.
Tout à fait, ou les chasseurs ont fait une histoire de la chasse depuis longtemps. Et effectivement, mais alors ces gens-là, les amateurs, avaient des aspects très précis, hein, ce qui est l'aficionado, ce qui l'intéressait ou ce qui l'intéresse encore, c'est l'histoire de la corrida. Les vétérinaires, c'est l'histoire de la médecine vétérinaire, etc. Et chacun était un peu dans son couloir sans trop regarder ce qui se faisait. Alors il y a eu des travaux d'historiens dès la fin 19e, début 20e siècle, mais on voit bien que là aussi, ils arrivent au sujet un peu en élargissant leur propre domaine et sans s'apercevoir que finalement il y aurait un champ tout à fait spécifique qui serait celui de l'histoire de l'animal. Et sans doute parce que l'animal, à l'époque, dans les représentations, n'est pas un acteur, n'est pas un sujet, et ils ne sont pas allés jusqu'à l'idée que finalement ça pourrait être le héros de l'histoire. Et on voit bien, il y a toute une série comme ça de rendez-vous manqués, par exemple Lucien Febvre dans La Terre et l'évolution humaine.
Le cofondateur des annales
en est très proche. Hein, il est dans une géo-histoire, il en est très proche et on voit bien qu'il n'y va pas. Hein, il faut attendre effectivement la génération des Robert Delors, etc., pour que enfin on se dise,
Michel Pastoureau,
qu'il y a un sujet.
Oui, il faut rappeler d'ailleurs que chez les historiens, un certain nombre de sujets qui aujourd'hui relèvent de la grande histoire appartenaient il y a encore 50 ans à la petite histoire. L'histoire du vêtement, par exemple, c'était pour les amateurs, n'avait pas sa place dans le monde universitaire. Or, aujourd'hui, c'est une discipline totalement carrefour pour toutes les sciences humaines. L'histoire de l'alimentation, ça semble extravagant, mais l'histoire de l'alimentation, il y a trois générations, ça n'intéressait pas grand monde chez les historiens universitaires. Les ethnologues, oui, les anthropologues, oui, mais c'était quand même chez les historiens la petite histoire. Donc les choses ont bien changé. En 50 ans, moi j'ai vu des changements qui m'ont réjoui, évidemment. Je ne sais pas trop ce que passera dans 50 ans. On ricanera sans doute de nos façons de penser et d'enseigner en 2018, mais ça peut pas en être autrement, bien sûr. Mais en tout cas, du côté du monde animal et du monde végétal, d'ailleurs, je dois le préciser, j'ai vu des curiosités nouvelles se former et l'institution universitaire pour les sciences humaines, en tout cas, faire une place beaucoup plus grande aux animaux et aux végétaux.
Oui, il faut dire, en l'occurrence, Éric Bahaté, que des éthologues, les gens qui travaillent sur les comportements animaux, des vétérinaires, vous l'avez dit, d'autres ont travaillé sur ces questions-là, et que d'un seul coup, quand on regarde, on sait qu'on ne fait d'histoire que contemporaine, quand on regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui, eh bien, on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant dans les sources. Pierre Cerna nous explique comment, pendant la Révolution française, dans Comme des bêtes, chez Fayard, il nous explique comment, pendant la Révolution française, il a trouvé un certain Boissel qui voulait faire un projet de constitution qui mettrait en premier, devant les hommes, la question animale, par exemple, et qui était végétarien. Donc on découvre des choses qui sont présentes dans le passé, mais qu'on n'allait pas voir auparavant, Éric Bahaté.
Oui, bien sûr, parce que c'était totalement négligé. Et puis, du côté des animaux aussi, il y a des choses que l'on ne voyait pas et que maintenant on voit, les comportements...
La souffrance animale.
La souffrance animale, mais alors, c'est assez contradictoire, parce qu'à la fois... Le discours officiel n'en parlait pas, le discours des scientifiques n'en parlait pas, et en même temps, quand on va dans les documents, on se rend compte que finalement, les gens de l'époque, par exemple du 19e siècle, lorsqu'ils sont paysans, lorsqu'ils sont mineurs et qu'ils ont un cheval avec eux, lorsqu'ils tractent une diligence, ils sont bien obligés de faire attention aux animaux. Sinon, ça marche pas. Si on emploie trop de violence avec un animal, alors on a le droit de le faire. On a la possibilité de le faire. L'animal ne peut pas dire non. Mais évidemment, l'animal va réagir. Dans les mines, par exemple, lorsqu'un cheval ne veut plus travailler... Les ingénieurs, les vétérinaires savent tout de suite quelle est la raison, c'est qu'il a été violenté. Donc il se met en grève. Et donc tout ça, on ne le voyait pas, et maintenant on commence à le voir grâce aux éthologues qui nous ouvrent les yeux.
Michel Pastoureau ?
Oui, dans les documents médiévaux apparaissent aussi des faits de sensibilité qui expriment un rapport entre l'homme et l'animal assez différent de l'image que l'on en a de point de vue caricatural. Par exemple, dans les fermes, beaucoup d'animaux domestiques au Moyen-Âge ont un nom propre, ce qui leur donne un statut individuel qu'on ne soupçonnerait pas. Les vaches, les chevaux, parfois les cochons. Et puis, on a une conception de l'animal domestique qui est assez différente de la nôtre. Au Moyen-Âge... et domestique, tout animal qui vit dans la domus, la maison, ou autour de la domus. Donc les animaux de la ferme, bien sûr, le chien et le chat qui se revalorise assez tardivement, mais aussi le merle, la pie, le corbeau, le renard, le rat, la souris, la belette, ce sont des animalia domestica pour les textes. Aujourd'hui, on définit la domestication en général par le fait que l'être humain maîtrise la reproduction de telle ou telle espèce. Bon, définition qui est un peu contestée, mais en tout cas, ça n'a aucun rapport avec la conception qu'on a de l'animal domestique dans les sociétés antiques et médiévales.
Béatrice Bougnol.
Oui, Éric Bahaté, il semble que dans vos ouvrages, notamment le point de vue animal, vous dessiniez une autre avancée, si on peut dire, en tout cas une autre piste, qui serait celle de rejoindre ce que vous appelez le versant animal. Donc finalement, au-delà même de l'histoire des sensibilités humaines vis-à-vis des animaux, d'essayer de retranscrire ce qu'ont pu être les vécus et les sensibilités animales mises en jeu. Et vous proposez même tout un travail d'écriture qui pourrait permettre de percevoir ces vécus animaux. C'est ce que vous explorez avec vos biographies animales, dont vous allez peut-être pouvoir nous expliquer quelle est la visée. Est-ce que ça, c'est le pas d'après, c'est-à-dire c'est ce qui s'ouvre aujourd'hui, notamment avec vos travaux, c'est de prendre les animaux non pas seulement comme objet d'histoire, mais comme acteurs de l'histoire à part entière.
Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, en fait, c'est que, on le voit dans les documents, hein, j'en parlais tout à l'heure, quand on regarde les contemporains, eh bien, ils ne sont pas devant des objets lorsqu'ils sont avec leurs animaux. Hein. Les paysans dans leur ferme au Moyen-Âge, ils donnent des prénoms. Il y a une relation entre deux acteurs. C'est pas un homme qui serait l'acteur agissant et puis l'animal qui serait passif. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui se passe aussi de l'autre côté, pour deux raisons, à la fois pour comprendre ce qui arrive à ces animaux, parce que on voit maintenant, on découvre avec l'éthologie à quel point ces animaux ont des capacités, ce sont des espèces extrêmement riches dont il faut tenir compte. Et puis l'autre but, c'est aussi de mieux comprendre la relation entre l'homme et l'animal. À partir du moment où le mineur tient compte de son cheval, eh bien, il faut savoir ce qui se passe du côté du cheval pour voir si ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, par exemple. Et donc, on a des documents pour ça. Il y a des documents humains qui permettent de voir. Il y a des gens qui regardent bien les animaux, alors qu'ils ne voient pas tout de ce qui se passe des animaux, mais qui en voient quand même un peu. Et donc, ils font des remarques, par exemple, sur la guerre de 14. Le livre de Maurice Genevoix, ceux de 14, est un livre remarquable. Il a vraiment l'œil et il y a quasiment des animaux à chaque page et il donne des indications très intéressantes. À côté de ça, il y a des gens qui ne s'intéressent pas. J'avais trouvé un artilleur dans son livre. Il a une phrase tout à fait significative à un moment. Il dit, les canons arrivent au galop. Comme manière de totalement évincer le cheval, il n'y a pas mieux. Alors, tout le monde ne regarde pas, mais ceux qui regardent nous donnent des informations qui permettent, en les croisant avec l'éthologie actuelle, qui permettent de comprendre un tout petit peu ce qui se passe du côté des animaux.
Donc il faut que la discipline historique aille voir du côté de la discipline dite de sciences dures, dont on parlera avec Nicolas Martin cet après-midi en particulier. Donc il faut aller voir de ce côté-là pour pouvoir ramener des innovations, des découvertes, sur en particulier l'individuation des animaux, c'est-à-dire qu'on les voit généralement comme espèces depuis Buffon et depuis Linné, et vous dites aujourd'hui, on arrive à voir que un individu animal existe à côté d'un autre individu animal, et que, comme disait Michel Pastoureau, on peut les appeler par leur prénom ou par leur nom, parce qu'au bout du compte, ils ont des destins qui ne sont pas les mêmes, ce sont des individus animaux, ce qui est une profonde nouveauté, pourrait-on dire, importée dans le domaine de l'histoire. Ça n'est plus le chien à travers les temps, ça n'est pas le chat depuis la plus haute antiquité, c'est tel chat à tel moment, dans telle société, avec tel compagnon ou humain, par exemple.
Tout à fait. Alors ça, c'est une découverte dans les discours savants, je dirais, dans les discours lettrés. Mais dans le monde populaire ou dans le monde paysan, ça n'est pas forcément une découverte. Je pense au curé Mélier, ce curé du début du XVIIIe siècle, qui est très savant, qui ne croit pas en Dieu. Hein. Il a jamais cru en Dieu, mais enfin, il est quand même curé en Lorraine. Et il fait la messe tous les dimanches. Et un jour, il a envie de parler de la théorie de l'animal-machine à ses ouailles. Donc, il leur expose la théorie de l'animal-machine. Et il raconte comment ces paysans se mettent à rire. Mais à rire, parce qu'ils n'y croient pas. Eux, ils savent que leur vache, d'une vache à l'autre, c'est pas le même tempérament, c'est pas le même caractère, et qu'il faut faire avec. Et donc, la nouveauté, elle est surtout du côté du monde savant. Et c'est vrai que ce sont les éthologues qui, depuis une cinquantaine d'années plutôt, commencent à s'intéresser aux individus. La première, ce sont des éthologues japonais qui, dans les années 50, ont découvert... Ça s'est fait en direct, d'ailleurs, la découverte, qu'une macaque japonaise avait songé à tremper sa patate douce dans de l'eau, puis pour la laver, puis ensuite dans de l'eau salée, sans doute pour avoir un meilleur goût. Et elle a transmis, petit à petit, cette innovation culinaire à sa famille, puis à sa tribu. Et maintenant, vous avez des macaques japonais, vous avez des groupes de macaques japonais qui trempent leurs patates douces dans l'eau salée, d'autres qui ne le font pas. On a des traditions culinaires qui se sont mises en place. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de s'intéresser à des individus. Et maintenant, par exemple, dans l'éthologie canine, qui est une éthologie extrêmement performante, l'unité de base d'observation, c'est plus l'espèce, c'est l'individu. Et alors, évidemment, si on se met sur les individus, là, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire la diversité dans l'espace, par exemple. La diversité dans un groupe, autrement dit, il va falloir se mettre à faire de la sociologie animale. La diversité d'un groupe à l'autre, donc de l'ethnologie animale. Il faut faire aussi de l'histoire animale ou de l'histoire éthologique, je dirais, de manière à voir à quel point ces animaux changent dans l'espace et le temps. Et ils changent souvent influencés par les hommes ou d'une manière indépendante. Et les chats, par exemple, qu'on a tendance à voir comme une espèce assez intemporelle, indépendante, etc., etc., c'est une vue de l'esprit. Le chat a beaucoup changé dans sa manière d'agir.
Et d'ailleurs, vous travaillez sur les chats pour votre prochain travaux, en l'occurrence Michel Pastoureau. Vous allez travailler sur les chats, c'est ça?
Pas moi, mais l'une de mes étudiantes, Laurence Bobis, grande historienne du chat, a montré que cet animal qui était plutôt dévalorisé, ou en tout cas dont on se méfiait, qui appartenait aux bestiaires du diable, encore en plein Moyen-Âge central, notamment parce qu'il avait des mœurs nocturnes, se revalorisait après la grande peste du milieu du XIVe siècle, parce que les contemporains ont à peu près compris que l'épidémie était plus ou moins propagée par les rats, se sont posé la question, est-ce que les chats ne seraient pas plus efficaces que les belettes qu'on utilisait jusque-là pour chasser les rats? On fait l'expérience et ça a été concluant. Donc le chat qui avait rarement le droit d'entrer dans les maisons, en 2-3 générations, a le droit de le faire et acquiert le statut qui est encore le sien aujourd'hui de fidèle compagnon. Quand on lit les pages de Montaigne sur ses chattes, on se croirait la semaine dernière, quelque chose comme ça. Donc autant le chien se revalorise lentement dans l'histoire occidentale, autant le chat, c'est assez soudain. Donc des histoires assez différentes. Mais moi, je ne travaille pas sur le chat.
Vous travaillez sur le corbeau, par exemple, ces temps-ci, qui est un animal dévalorisé, pourrait-on dire. On le considère généralement comme un oiseau de mauvais augure. Et vous imaginez comment on peut travailler sur le corbeau, sur ses comportements, sur ses comportements, y compris vis-à-vis des autres animaux, par exemple.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas pour l'époque du christianisme médiéval et moderne, les animaux honnis, détestés, négatifs, sont mieux documentés que les animaux positifs. Donc après l'ours, après le cochon, je m'intéresse au corbeau. Ça fait 50 ans que j'accumule des notes sur l'histoire culturelle du corbeau en Occident, un oiseau vénéré dans l'Antiquité. Pline le présente déjà dans son histoire naturelle comme l'animal le plus intelligent, ce que tendraient à confirmer les enquêtes les plus récentes sur l'intelligence animale. Pour certaines expériences, il est au niveau des grands singes, ce que donc l'Antiquité savait déjà et que le christianisme a refusé, une guerre au corbeau, mais alors terrible. Je suis quand même perplexe par rapport à nos rapports, à nous, historiens et gens des sciences humaines, par rapport aux travaux sur les animaux conduits par des chercheurs d'autres disciplines. C'est toujours l'homme qui organise les expériences, qui provoque les stimuli, qui observe comment les animaux se comportent et qui en tire les conclusions. On peut pas faire autrement, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant. Quelle est la pertinence de ces conclusions?
Éric Baraté, c'est quasiment une pierre dans votre jardin, en l'occurrence, puisque vous mettez à écrire comme le taureau qui a tué Manolete, par exemple, en 1947, donc dans une arène.
Pas comme.
Vous imaginez comment il a pu réagir aux stimuli qui étaient présents dans cette arène lorsqu'il a tué Manolete d'un coup de corne.
Alors c'est pas de l'imagination, dans le sens où on sait très bien ce qui se passe dans une corrida maintenant. Il y a eu beaucoup d'études éthologiques sur les bovins. Et donc, on peut savoir ce qu'un taureau peut ressentir au moment de la corrida, parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus. y compris sur des taureaux après corrida. Donc voir quel a été leur niveau, par exemple, de production de toxines, de cortisol, etc., et qui sont des réponses à la douleur. Alors évidemment, le biais, il est là, c'est que ce sont toujours des recherches humaines, hein, on est bien d'accord, étant donné que c'est la même chose pour les textes. Nous avons plein de textes sur les animaux, ce sont les hommes qui les produisent. Mais je dirais que ça, c'est vrai pour beaucoup de choses en histoire. J'entendais dernièrement une collègue travaillant sur les femmes durant l'Antiquité grecque et qui disait « Le gros problème de mon histoire, c'est que tous les textes sont écrits par des hommes et non pas par des femmes. » Alors évidemment, le biais homme-animal est plus fort, mais il n'y a pas une grande différence.
Béatrice Bougnol.
Oui, justement, on peut se demander ce que cette histoire de l'animal exige de l'historien en termes d'écriture aussi, puisque là, vous parlez des sources, la difficulté des sources. Vous avez effectivement expérimenté dans ces biographies animales que vous avez écrites une écriture particulière, donc vous pouvez peut-être nous l'expliquer, mais il y a des passages, en fait, soit en italique, soit signalés par des tirets, qui sont en fait un peu le vécu, le ressenti de l'animal. Vous refusiez tout à l'heure de dire que c'était un recours à l'imaginaire, mais pour autant, est-ce que pour effectivement aller vers cette histoire animale que vous appelez de vos voeux, il y a aussi un travail d'écriture particulier que les historiens doivent faire aujourd'hui ?
Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau scientifique, par exemple, si on prend le cas de la corrida du taureau Islero, pour ceux qui ne savent pas, c'est le taureau le plus célèbre du XXe siècle, puisque c'est lui qui a tuné Manolette en 1947. On a une douzaine de photos. Qui était l'un des grands toreros de l'histoire de la corrida. On a une douzaine de photos sur cette corrida où l'on voit Manolette et le taureau. Avec ce qu'on sait des bovins, de l'éthologie bovine, et avec ce qu'on sait de ce qui se passe dans une corrida, j'ai essayé de reconstituer la corrida de ce taureau. Donc au niveau scientifique, rien n'est inventé dans le sens où je m'appuie sur des travaux d'éthologues, mais aussi d'historiens, etc. Après, je me suis dit, il y a peut-être le problème, évidemment, c'est que pour faire ressentir ce que vit un animal, si on emploie le style habituel humain, ça sera peut-être pas suffisant. Donc l'idée n'a pas été de faire parler les animaux. L'idée a été de trouver des artifices d'écriture.
Des transcriptions.
Des transcriptions qui permettent au lecteur de se décentrer, à être un peu dérangé. Et donc, en étant dérangé, en étant décentré, c'est plus facile, et je me suis rendu compte aux réactions, c'est plus facile pour les gens de se mettre dans un autre monde. Mais ce travail d'écriture ne prétend pas raconter l'histoire à la place du taureau.
Subjectif du taureau.
Tout à fait. Je ne parle pas à la place du taureau. C'est simplement un artifice d'écriture. Et finalement, ça marche parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens m'ont dit, mais finalement, on sent bien la corrida de ce taureau. Mais c'est avant tout l'histoire de perturber le lecteur.
Oui, alors pour aller un peu plus loin, est-ce que vous n'allez pas, et je donnerai la parole ensuite à Michel Pastoureau, du côté de ce que faisaient les gens qui écrivaient des contes médiévaux, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous dites, on va travailler sur Consul, par exemple. Consul, c'est un singe au XIXe siècle est utilisé pour pouvoir montrer. On l'habille en homme, on lui fait prendre le thé, on voit comment il réagit. Il est habillé à l'anglaise en Angleterre. Il est à Westminster, je crois.
C'est Manchester.
À Manchester, voilà, c'est ça. Et Consul, dans ses biographies animales, vous dites, on s'aperçoit qu'il joue le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il a une véritable volonté. Il n'est pas simplement agi par les hommes, mais il comprend son intérêt. Il est mieux à être habillé à l'anglaise et à boire du thé dans des maisons bourgeoises ou nobles qu'à être au zoo derrière la cage, dans sa cage. Et donc, il a une véritable volonté personnelle. Et je tente de rendre, en tant qu'historien, Éric Baraté, je tente de rendre cela. Mais tout compte fait, quand on écrit le roman de Renard, on écrit quelque chose qui peut ressembler à ça. C'est-à-dire, il y a certes de l'anthropomorphisme, on veut voir dans le renard, mais tout compte fait, on comprend qu'il y a là aussi une subjectivité de l'animal, une intelligence animale dans les contes médiévaux.
Oui, alors j'ai justement voulu totalement me différencier de ça.
Je vous pose la question pour ça.
Alors, il est vrai qu'il y a toute une littérature faisant parler les animaux pour des raisons de morale. On enseigne la morale comme ça aux hommes, par les animaux. Il y a aussi un deuxième courant littéraire qui naît à la fin du XVIIIe siècle, ce sont les biographies d'animaux. Et alors, il y en a, c'est un véritable courant qui explose de nos jours. Hein. Ça va des écrivains les plus célèbres qui racontent la vie de leur chat jusqu'au maître de tous les jours qui, sur YouTube, va mettre un petit résumé ou sur Amazon va mettre un petit livre racontant son chat. Là aussi, c'est une littérature qui est souvent anthropomorphisée, c'est-à-dire que l'animal parle et il dit « je », etc., etc. C'est une littérature qui ne sert pas à connaître les animaux. Par contre, elle a beaucoup servi à reconnaître les animaux, ce qui n'est pas la même chose. Les reconnaître en tant qu'individu. Et on voit bien comment, sans ce travail littéraire qui est en fait un travail d'une société entière, toute la société occidentale, à partir de la fin du XVIIIe siècle, a travaillé sur l'idée d'individu animal. Alors que la philosophie, la science, la théologie ne voulaient absolument pas en entendre parler.
Que des classifications.
Voilà. Hein, l'animal, l'animalité, à la rigueur les espèces, mais surtout pas les individus. Et comme par hasard, au bout de ces deux siècles de travail, eh bien, on voit les scientifiques se mettre à s'intéresser aux individus. Ce n'est pas absolument pas un hasard.
Michel Pastoureau.
Oui, dans les époques anciennes, évidemment, nous n'avons pas de prise sur des animaux individus ayant réellement existé. Donc il faut passer par le biais des mythologies ou de la littérature, comme le roman de Renard, en effet, qui est un immense laboratoire hein, pour l'historien des animaux.
Surtout qu'il change le roman de Renard, il y a des versions différentes.
Voilà, on appelle roman de Renard un ensemble de textes de la fin du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle. Et le caractère du goupil, par exemple, Renard, n'est pas le même vers 1180 et vers 1250. Il est de plus en plus diabolique au fil des différentes branches, mais dans le roman de Renard, les animaux sont pris à trois niveaux. Ce sont à la fois des animaux, au sens propre, ce sont des individus ayant chacun un nom propre, une parenté, des vassalités et des caractères surtout qui sont bien affirmés et parfois qui évoluent d'une branche à l'autre. Et puis ce sont des archétypes, des vices et des vertus pour enseigner le lecteur. C'est une littérature très savante, hein. Il faut absolument oublier l'idée que le roman de Renard, création populaire, etc. Non, pas du tout, c'est une littérature hyper savante, de clercs, émergeant d'abord en milieu monastique probablement. Mais c'est le seul endroit où la littérature, où l'historien des époques anciennes a un peu prise sur...
Il y a quand même un autre endroit que vous mentionnez dans vos travaux, Michel Pastoureau. C'est à propos, vous pouvez nous raconter cette histoire, de l'éléphant qui était offert par le sultan d'Égypte à Saint-Louis, à Louis IX en l'occurrence. Lui, c'est un individu.
C'est un individu qui est assez bien documenté, parce qu'il laisse des traces dans les documents. Il est offert à Saint-Louis peu après son retour, après de longues années d'absence du Proche-Orient. Il arrive à Paris à l'été 1254 et Saint-Louis, qui à titre personnel ne semble pas du tout aimer les animaux et même en avoir peur, l'offre à son beau-frère, le roi d'Angleterre Henri III, et on a la chance d'avoir des documents sur le voyage de cet éléphant de Paris jusqu'à Londres. À Beauvais, l'évêque vient le bénir, lui offre une capa maxima pour le protéger de la pluie. À Calais, au moment où il va embarquer, il y a une foule considérable qui veut voir la grosse bête. Et puis à Londres, on le fait baigner dans la Tamise avec un ours blanc offert par le roi de Norvège au roi d'Angleterre, qui s'appelait Piscator. Et ces deux animaux ont vécu assez longtemps auprès de la tour de Londres.
Et surtout, on l'a peint, cet éléphant, en l'occurrence. Et c'est Mathieu Paris qui le peint. Donc on a un portrait, pourrait-on dire, comme un portrait d'humain de 1254 ou 1255 de cet éléphant offert par le sultan d'Égypte à Louis IX, puis ensuite à son beau-frère Henri III.
Voilà, c'est une image exceptionnelle puisque Mathieu Paris, à la fois moine, chroniqueur, enlumineur, personnage important de cette Angleterre du milieu du XIIIe siècle, nous dit qu'il a représenté au vif, on dirait, cet éléphant tel qu'il a vu, avec, on dirait, son cornac, nous, aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Au fond, peu importe. L'idée, c'est qu'il a voulu nous montrer que c'était vrai, qu'il l'avait pris sur le réel. On n'a pas beaucoup de cas de ce genre.
Oui, ce qui est quand même très intéressant, Éric Baraté, c'est que l'émergence ou l'arrivée d'une nouvelle espèce dans un espace géographique qu'il n'avait jamais vu, par exemple, comme cet éléphant arrivant d'Égypte auprès de la cour de Louis IX, c'est un moment exceptionnel parce qu'il provoque une documentation. C'est le cas aussi de la girafe de Charles X, là aussi offerte au roi de France au début, enfin dans la première moitié du XIXe siècle. Et cette girafe, vous en dressez le portrait, sa biographie, vous faites sa biographie racontée par elle, comme vous le faites dans toutes ses biographies animales. Et vous dites, ce qui m'intéresse dans la girafe, c'est non seulement les réactions des hommes vis-à-vis de la girafe et de cette arrivée d'un nouvel animal, mais c'est les réactions des autres animaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'y pense pas habituellement, c'est-à-dire que quand arrive une nouvelle espèce, il n'y a pas simplement les hommes qui voient arriver cette nouvelle espèce, mais les autres espèces animales.
Oui, c'est un animal très célèbre, la girafe de 1827, qui est offerte à Charles X. Et on a des documents sur elle, notamment on a le document d'un naturaliste marseillais, très 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 modeste à l'époque. C'est le Muséum de Paris qui lui demande de faire un rapport, parce qu'on a trop peur que cette girafe meure en route, hein, et ce qui aurait dû être l'issue la plus probable. Et donc on lui demande un rapport, et ce naturaliste voit très bien ce qui se passe. Enfin, il a de bonnes observations, d'autant plus qu'il n'y a pas de référence. On n'a jamais vu de girafe depuis peut-être l'Empire romain, enfin ça, on n'a pas de souvenir. Donc il n'y a pas de référence de girafe vivante. Et donc il regarde et il nous donne toute une série d'indications qui permettent finalement de reconstituer une rencontre entre deux mondes. Deux mondes vivants qui se rencontrent, la girafe qui représente finalement les espèces exotiques, les espèces africaines, et puis de l'autre côté les Marseillais, puis les Lyonnais, puis les Parisiens, etc., qui représentent les Occidentaux. Et on voit bien à la fois les incompréhensions, les ajustements réciproques entre les deux, qui font que finalement elle ne meurt pas et elle tient jusqu'en 1845. Alors il y a des choses tout à fait marrantes, notamment sur l'alimentation, par exemple. Alors elle boit essentiellement du lait parce qu'elle a été capturée avant d'avoir été sevrée, donc elle boit surtout du lait sorti tiède des mamelles, donc il faut qu'elle soit accompagnée de vaches. Au départ c'était des chamelles, puis des juments, là ce sont des vaches. Mais on se demande quand même qu'est-ce qu'elle peut manger à part le lait. Alors on l'emmène par exemple dans un pré à Marseille au début du 19e siècle, c'est quelque chose de relativement rare, l'essentiel des terres est en culture. Une vache marseillaise se damnerait pour avoir un pré et elle qui est nourrie avec des feuilles, de l'écorce, etc. On l'emmène dans un pré, elle n'en veut pas. Alors on se dit, bon, ben, on va lui donner des fruits africains, on fait le lien entre, elle est d'origine africaine, des fruits africains, elle n'en veut pas. Et plein de choses comme ça qu'elle ne veut pas. Finalement, ce qui lui convient bien, c'est le l'if et le tuya, et qu'on juge au contraire très amer. Alors on ne comprend pas entre cette espèce, cet individu, cet animal très majestueux, et puis ce qu'elle mange. Donc incompréhension. Et il y a comme ça toute une série d'ajustements et d'incompréhensions qui se font petit à petit.
Merci, merci à vous, Michel Pastoureau. Et on pourra réécouter, si on veut connaître d'autres histoires d'animaux, les émissions que vous aviez enregistrées pour France Culture. C'était en 2015 avec Mathilde Wagman, qui s'appelait « Les animaux aussi ont une histoire ». C'est encore en ligne. On peut encore les télécharger sur le site de France Culture. Et merci à vous, Éric Baraté, de nous avoir expliqué comment on pouvait faire l'état supplémentaire, le pas supplémentaire pour mieux comprendre justement cette question des rapports de l'homme à l'animal. Et merci à tout ce public assemblé ici, donc dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour ce premier débat de cette journée spéciale, donc de France Culture, autour de l'animal. Nos remerciements au public venu nombreux en Sorbonne, mais également à toutes celles et à tous ceux qui ont permis cette série d'émissions enregistrées samedi dernier, le service communication de France Culture et en particulier Adrien Landivier, mais également les services de Sorbonne Université, à la Fabrique de l'Histoire Francesca Fossati qui a préparé cette émission, à la technique Alex James, Hervé Dubreuil, Gilles Manet et Benjamin Perru, à la réalisation Thomas Duterre et Marie-Laure Ciboulet. Le prochain forum de France Culture en Sorbonne se tiendra le 10 février prochain à partir de 10h. Nous vous y attendons. Nous vous parlerons de sexe et plus particulièrement, pour notre part, de révolution et de contre-révolution sexuelle dans l'histoire.